L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, l'audiovisuel public dans la tourmente en France comme en Suisse. Au Canada, on suivra un énième rebondissement dans le projet de remplacement des avions de chasse de l'armée. En France, c'est du jamais vu. Un ancien ministre devant une cour d'assises pour des accusations de viol et agression sexuelle. On verra à Madagascar qu'il faut encore et toujours protéger les lémuriens. Enfin, on se demandera pourquoi la Belgique a été autant paralysée après seulement quelques légères chutes de neige. C'est l'actualité francophone. Bienvenue à tous. On prend d'abord des nouvelles de ce professeur de l'Université libre flamande de Bruxelles. Il est actuellement détenu en Iran et il risque d'être exécuté, Marie Van Kunsem.
Oui, le professeur Ahmad Reza Jalali est dans une prison iranienne depuis avril 2016. Il est soupçonné d'espionnage au profit d'une puissance étrangère. Le mois dernier, son procès a eu lieu et il est condamné à la peine capitale. Son avocat est alors chargé de faire appel de la sentence. Mais là, problème, la demande n'est jamais arrivée jusqu'à la Cour suprême iranienne. Le délai est désormais expiré et la sentence semble inéluctable. Pour certains collègues du professeur Jalali à Bruxelles, une seule explication à cette soi-disant erreur légale, l'avocat serait de connivence avec le tribunal révolutionnaire iranien. Depuis, en Belgique, on se mobilise. Deux ministres belges ont demandé à ce que le professeur soit gracié. Et hier soir, une manifestation de soutien a eu lieu devant l'ambassade iranienne à Bruxelles. Elle a rassemblé plusieurs centaines de personnes.
Cette semaine en Suisse, Joël Marchetti, votre personnalité s'appelle Céline Amaudru.
Oui, Céline Amaudru est parlementaire fédérale et elle a témoigné il y a quelques jours en expliquant avoir été victime de harcèlement au palais fédéral. Un témoignage qui a fait des remous au sein même de son parti, l'UDC, parti de la droite conservatrice. Elle a été critiquée par plusieurs pontes de sa formation, notamment pour en avoir trop dit ou pas assez, des critiques qui créent une certaine tension au sein même du parti. Il faut dire que le Parlement fédéral est en plein déballage sur des comportements inappropriés. On a d'ailleurs appris cette semaine que les victimes auront, dès le 1er janvier, une structure à laquelle s'adresser.
Sur RFI, Charlotte Hydrac, portrait cette semaine de l'écrivain camerounais Patrice Nganan.
Un écrivain engagé, l'auteur de Tant de chiens, prix Marguerite Yourcenar, enseignant en littérature à l'université de New York. Il a été arrêté la semaine dernière au Cameroun et poursuivi notamment pour apologie du crime. En fait, dans un texte publié sur sa page Facebook, il menaçait, je cite, de donner une balle exactement dans le front de Paul Biya, le président camerounais. Pour ses soutiens, il ne s'agit que de mots, pas de bazooka. Patrice Nganan, lui, plaide non coupable. Prochaine audience le 19 janvier.
Benoît Audet, au Canada, on a beaucoup parlé cette semaine du footballeur belge Laurent Simon.
Oui, une des principales têtes d'affiche de l'Impact de Montréal, un club qui joue en MLS, le principal championnat nord-américain. Laurent Simon a été échangé à une équipe de Los Angeles à la surprise générale. Il était en état de choc selon son agent. Laurent Simon avait choisi de s'établir à Montréal. Il était bien enraciné ici. Il va donc poursuivre sa carrière en Californie. Il est aussi bien placé pour faire partie de la sélection belge en vue de la Coupe du Monde de 2018.
En France, voilà une femme en difficulté, Delphine Ernotte. Elle est la présidente de France Télévisions, service public donc, coincée entre l'enclume et le marteau. D'un côté, l'État actionnaire qui lui demande toujours plus d'économies et de l'autre, les salariés de France Télévisions qui se méfient des réformes en vue. Les salariés de France Télévisions ont même fait grève cette semaine et les journalistes ont voté une motion de défiance contre Delphine Ernotte, une motion approuvée à 84% comme un coup de semonce donc adressé à la présidente de France Télévisions. L'avenir de l'audiovisuel public, il en est question également en Suisse. On voit ça maintenant. Joël Marchetti, l'avenir de l'audiovisuel suisse fait donc débat en ce moment.
Un débat très vif. Le 4 mars prochain, les Suisses voteront sur l'initiative dite No Bilag. Bilag étant la société chargée jusqu'ici d'encaisser la redevance radio-TV. La redevance, dès 2019, c'est 365 francs par an pour les ménages, soit un peu plus de 310 euros. Cette redevance finance les trois quarts du budget de la SSR, l'audiovisuel national public, pour développer ses programmes radio et TV dans les quatre langues nationales. Et puis la redevance participe également au budget de nombreuses radios et TV locales privées.
Et donc Joël, c'est bien ce modèle qui aujourd'hui est contesté.
Oui, l'initiative Nobilag pose un principe que la Confédération ne prélève aucune redevance et ne subventionne aucune chaîne de radio ou de télévision. Cette semaine, la ministre de la Communication, Doris Leuthard, a présenté ses arguments contre cette initiative. Pour elle, si ce texte passe, c'est la fin du service public car il n'y a tout simplement pas de plan B.
On n'a pas de plan B parce que l'initiative est vraiment claire. On ne peut pas se permettre de dire « Ah, peut-être moitié de la redevance serait possible dans le texte de l'initiative. » C'est interdit. Et aussi d'autres subsides de la Confédération. Aussi là, le texte de l'initiative est clair. On n'a pas d'alternative. La situation comme on la connaît aujourd'hui serait plus existante.
Pas de plan B. Le comité qui soutient cette initiative n'est pas de cet avis. Selon eux, la diversité et la liberté du paysage médiatique seront encouragées en cas de oui à l'initiative Nobilag. Et la SSR peut s'autofinancer, notamment grâce à des abonnements ou des donations. Nicolas Jutzet, président du comité roman favorable à Nobilag.
Donc sous forme d'abonnement, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait imaginer. Et de nouveau, les rapports internes, que ce soit de la SSR ou des radios-télévisions locales, montrent que le public plébiscite cette offre-là. Donc il n'y a pas de raison que dès le 5 mars, le Suisse ne veuille pas se montrer solidaire et ne veuille pas soutenir cette offre-là. Nous, on s'attaque au mode de financement qui est complètement dépassé, qui correspond à une époque qui est révolue, où c'était technologiquement pas possible parce que les fréquences étaient limitées, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut tout à fait imaginer des abonnements, du pay-per-view, de la pay-TV et même des donations ou de la publicité.
Je vous l'ai dit, le débat est très vif ici. Il se prolonge jusqu'au 4 mars, jour où le peuple tranchera dans les urnes.
Au Canada, c'est un dossier récurrent, le remplacement des avions de chasse de l'armée canadienne avec un nouvel épisode cette semaine, puisque l'armée canadienne va dans un premier temps acheter 18 appareils australiens usagés avant de les remplacer, avant de préparer en tout cas un nouvel appel d'offres pour l'achat de 88 appareils neufs. Benoît Audet, qu'est-ce qui est à l'origine de ce dernier rebondissement?
C'est une dispute commerciale avec le géant américain Boeing qui a poussé le Canada à acheter de vieux appareils australiens. Le Canada devait acheter des Super Hornets fabriqués par Boeing en attendant d'être fixé sur le type d'appareil dont l'armée a besoin à long terme. Mais il y a quelques mois, Boeing a déposé une plainte auprès du département américain du commerce qui a par la suite imposé des tarifs punitifs de 300% aux appareils de la C-Series fabriqués par Bombardier, une entreprise canadienne. Alors, c'est vraiment une riposte au géant américain Boeing.
En fait, pour l'instant, Benoît, ça permet surtout au Canada d'acheter du temps, sans plus.
Oui, les chasseurs australiens ont à peu près le même âge que les CF-18 canadiens. Le Canada en a encore 80 en service et on croit qu'ils auront atteint la fin de leur vie utile en 2025. C'est donc un retour à la case départ. On veut attribuer le nouveau contrat de remplacement des appareils en 2022 pour que les premiers avions puissent voler en 2025. Donc, à temps pour remplacer les vieux CF-18. Dernière chose, des compagnies intéressées au contrat de remplacement devront prouver qu'il y aura des retombées économiques pour l'industrie aéronautique canadienne.
En France, c'est suffisamment rare pour s'y attarder. Un ancien secrétaire d'État est jugé en ce moment devant une cour d'assises. Georges Tron, ancien secrétaire d'État à la fonction publique, il est jugé pour viol en réunion et agression sexuelle. Les accusations viennent de deux anciennes employées municipales de la ville de Dravel, une commune de 30 000 habitants dont Georges Tron est toujours le maire. En revanche, quand le scandale a éclaté en 2011, il avait dû démissionner du gouvernement Fillon. Alors au départ, il y a des accusations de massage de pieds. Georges Tron affirme qu'il ne s'agit que de réflexologie plantaire, une discipline dont il ne cesse de vanter les mérites. Or, ce qui vaut à Georges Tron d'être renvoyé devant la cour d'assises va bien au-delà des simples massages de la voûte plantaire. Les deux plaignantes disent avoir subi des attouchements, des pénétrations digitales entre 2007 et 2010. Cette affaire a déjà été jugée deux fois et à chaque fois, elle s'est soldée par un non-lieu. Et pour ce troisième procès, et cette fois en assise donc, l'avocat de Georges Tron, Maître Dupont-Moretti, dénonce des accusations mensongères motivées par un complot politique.
On met en exergue clairement, et je pèse mes mots, les mensonges des plaignantes et leur mobile financier. 300 000 euros. On tient également à rappeler que le Front National est derrière tout cela. Georges Tron est totalement innocent des accusations portées contre lui. Il n'a strictement rien à faire ici.
Ici, c'est-à-dire devant les assises de Seine-Saint-Denis près de Paris, le procès de Georges Tron doit durer jusqu'au 22 décembre. Sur RFI, Charlotte Hydrac, il faut encore et toujours se mobiliser pour la protection des lémuriens de Madagascar.
Oui, un animal emblématique et endémique de la Grande Île. C'est le seul pays au monde où l'on peut voir ces petits primates en liberté, mais qui pourraient purement et simplement disparaître. Sur les 114 espèces de lémuriens aujourd'hui connues, plus de 80% sont en voie d'extinction. Les primatologues ont tiré une nouvelle fois la sonnette d'alarme cette semaine avec un colloque international à Madagascar. Les menaces, elles sont connues, braconnage pour la consommation de viande ou le trafic d'animaux, mais le principal problème, comme le rappelle le professeur Eustache, c'est la déforestation.
L'effet de brousse, comme tout le monde le sait, ça continue à Madagascar et quand on parle d'effet de brousse, donc les habitats de ces animaux sont en train de disparaître et les animaux disparaissent avec, naturellement.
Il y a donc un travail de sensibilisation pour protéger ces mammifères qui sont aussi un moyen de subsistance indirectement pour les malgaches qui vivent de l'écotourisme. Pour le chercheur Guy Rajatain, tout le monde est concerné.
Les chercheurs, les étudiants, les organisations et aussi les décideurs, les leaders. Parce que pour la conservation, il faut se donner la main, il faut travailler ensemble.
Un appel à la mobilisation générale pour continuer à entendre les véritables concerts de certains lémuriens.
Bon, il y a, comme vous l'aviez fait remarquer hors antenne, effectivement, le chant des lémuriens ressemble un peu à celui des baleines. On va partir en Belgique avec vous, Marie van Kunsem. Il a suffi de 3 flocons de neige pour que tout le pays soit paralysé. La météo en Belgique a donc provoqué un début de semaine chaotique, hein.
Oui, la tempête Anna a déployé son blanc manteau pile poil pendant l'heure de pointe matinale autour de la capitale lundi. Résultat, des embouteillages monstrueux, près de 1300 km de ralentissement cumulé sur le pays. Les tunnels fermés dans la capitale où le trafic des transports publics a évidemment été fortement perturbé.
Et le gros point noir a été l'aéroport de Bruxelles National où 600 personnes ont dû passer la nuit.
Oui, 600 personnes bloquées sur place car leur vol a été retardé ou annulé. Des lits de camp ont été installés dans l'aéroport même. Un centre d'accueil non loin de la capitale a également accueilli des voyageurs pour la nuit. Alors ce qui a été pointé du doigt, c'est le manque d'organisation à l'intérieur de l'aéroport et surtout d'informations à destination des voyageurs, comme a pu le constater ce voyageur québécois.
Moi, je viens du Canada avec mon épouse. Mais pour nous, ce n'est pas une mauvaise condition météo. C'est une condition normale pour le Canada, même très, très, très anodine. Sauf que les indications, le service et le service à la clientèle de l'aérogare étaient pourris. On a dû passer la nuit dans un dortoir ici à la gare, aménagé. Pas d'informations, de mauvaises informations, des longues attentes, c'est normal, mais pas d'informations. Il y a des gens qui ont attendu 4 heures dans des lignes, comme nous, on a attendu 3 heures dans une ligne qui n'était pas pour nous.
Voilà, un voyageur québécois un peu déçu par son passage à Bruxelles. En tout, 15 000 personnes ont été concernées par ces perturbations à l'aéroport.
Voilà pour le tour d'horizon de l'actualité francophone de la semaine. Merci aux contributeurs de Suisse, de RFI, du Canada, de la Belgique et de France. Le prochain rendez-vous, même endroit, même heure, la semaine prochaine.